Bonjour à chacun et à chacune. Donc, on l'a dit, l'été cette année, c'est la saison des Jeux Olympiques, mais l'été, c'est aussi la saison des pique-niques. Et c'est ce que je voulais vous proposer de vivre tous ensemble à présent. Un pique-nique improvisé par Jésus et où chacun de nous à sa place, tel qu'il est, avec ses doutes et ses fragilités, où nous pouvons tous nous asseoir sur l'herbe verte de l'espérance pour être nourris et restaurés. Alors, je ne sais pas si les enfants m'entendent encore, qui sont en train de s'installer, ou si un des grands-enfants a envie de dire, d'après l'image qui s'affiche à l'écran, si vous avez une idée de l'histoire dont je vais parler aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. La multiplication des pains, un grand classique, une histoire dont la plupart d'entre nous avons déjà entendu parler maintes fois et qu'on a peut-être même parfois l'impression de connaître un peu par cœur, ou qu'on peut trouver parfois peut-être, on peut avoir l'impression que c'est un peu déconnecté de notre réalité avec ce côté a priori un peu magicien de Jésus qui multiplie les pains. C'est aussi une des seules histoires qui est racontée par les quatre évangélistes, ce qui nous dit vraiment toute son importance. Et je vous propose aujourd'hui de la redécouvrir dans la version de Jean, qui est assez différente de celle des trois autres évangélistes, et où tout est vraiment centré sur Jésus, le pain vivant descendu du ciel. Et j'ai choisi ce texte aussi parce qu'il est lu ce dimanche dans la liturgie d'autres églises chrétiennes, comme l'église catholique. Et donc, c'est une manière pour nous, en le lisant, d'être vraiment en communion avec une foule d'autres chrétiens partout dans le monde qui, en quelque sorte, vont partager avec nous ce pique-nique. Alors, Jean, dans son évangile, ne parle jamais de miracle, mais il va parler de signes. Et le signe, c'est ce qui manifeste la présence de Dieu parmi son peuple, Dieu présent parmi nous. Et Jean va nous raconter tout au long de son évangile sept signes. Et la multiplication des pains, c'est le quatrième des signes, donc c'est pile au milieu des signes. Et juste avant, le signe précédent de Jésus a été de guérir un malade. Et on va voir tout de suite que c'est cette guérison qu'il a faite qui va attirer la foule. Alors, je vous propose tout de suite de redécouvrir cette histoire avec une petite vidéo et j'invite les enfants à la regarder aussi. C'est une vidéo qui est faite normalement pour les enfants, mais aussi à nouveau pour tous les enfants que nous sommes. Et puis, je t'invite vraiment, quel que soit ton âge, à ouvrir grand tes sens, à être toi aussi cette foule qui a faim, André qui doute, Philippe qui compte, ou ce petit enfant qui donne le rien qu'il a. Je t'invite aussi à savourer le goût puissant de ce pain partagé et puis surtout la présence de Jésus, le prophète qui vient dans le monde et qui réveille en nous ce goût de l'espérance.
Jésus passe de l'autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suit parce qu'elle a vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus lève les yeux et voit qu'une foule nombreuse vient à lui. Il dit à Philippe :
Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?
Il dit cela pour le mettre à l'épreuve, car il sait déjà, lui, ce qu'il va faire. Philippe lui répond :
Le salaire de 200 journées ne suffirait pas. Pour que chacun reçoive un peu de pain.
Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre,
thank you.
Si ça fonctionne pas, je peux demander. Moi, par contre, j'ai pas noté le texte. Si quelqu'un a une Bible et veut lire la fin du texte, si ça fonctionne pas, c'est super. On était avec un des disciples, André, le frère de Simon Père. Je vois, on improvise. Sinon, ben j'y vais. Hein. C'est mieux sans la technique, voilà. le bon vieux livre. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit « Faites-le asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. » Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc, on est en Galilée, au bord du lac de Tibériade, et Jésus passe sur l'autre rive, vers la montagne. Une grande foule le suit, comme on l'a vu, parce qu'elle a vu son signe précédent, la guérison des malades. Elle le suit donc pour ce qu'il a fait, ou pour ce qu'il pourrait faire, mais non pas vraiment pour qui il est. Et la première chose que Jésus va faire, c'est justement réaffirmer qui il est, le Fils bien-aimé de Dieu. Il monte sur la montagne qui est le lieu de la présence de Dieu dans la Bible, et il va s'asseoir dans cette présence avec ses disciples. Jean nous dit, alors que la Pâque approche, en détail qui semble un peu tomber comme un cheveu sur la soupe, mais on va voir tout de suite qu'il a toute son importance. Jésus, depuis la montagne, voit la foule arriver, et il va porter sur elle le regard d'amour de Dieu. Ce Dieu qui a vu la détresse de son peuple en Égypte et qui l'a libéré, c'est ça, la Pâque. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu viens toi aussi vers Jésus comme cette foule, ça fait peut-être longtemps que tu attends qu'il agisse pour toi. Jésus t'a vu, il te voit, il connaît tes détresses, tes doutes, tes désirs et puis cette faim qui... creuse ton cœur et il t'invite à le rejoindre sur la montagne, tel que tu es, tel que tu te sens. Aujourd'hui, tu peux toi aussi entrer dans la présence de Dieu, un Dieu qui t'aime et qui désire avant tout que tu puisses goûter à cette liberté d'être son enfant bien-aimé, quelles que soient les circonstances de ta vie. La foule a faim. Alors, chez les autres évangélistes, ce sont les disciples qui demandent à Jésus de renvoyer cette foule après qu'il lui a parlé pour qu'elle trouve de quoi manger. Mais ici, c'est Jésus qui prend tout de suite l'initiative. Il va demander à un de ses disciples, Philippe, où trouver de quoi nourrir tous ces gens. Alors, la faim, à cette époque, c'est pas d'abord une faim symbolique ou spirituelle, mais c'est une vraie faim, une faim concrète, physique, qui est souvent liée à une misère et une perte de dignité. Une faim que la plupart d'entre nous, dans notre pays privilégié, n'avons sans doute jamais connue. Pourtant, la famine est aussi un problème concret et réel aujourd'hui, et un problème qui menace même de s'aggraver selon les scientifiques. Les greniers à blé de notre monde sont de plus en plus menacés par les conditions climatiques extrêmes. Alors l'été, c'est vrai, c'est la saison des Jeux Olympiques, des pique-niques, mais c'est aussi malheureusement ces dernières années la saison des inondations et des incendies destructeurs et sans précédent, avec des images si effrayantes. Et face à cela, comme Philippe, on pourrait se décourager et faire nous aussi facilement le compte. Même le salaire de 200 jours de travail ne suffirait pas pour que chacun mange à sa faim. Alors, que représentent mes pauvres petites actions face aux urgences de cette planète qui brûle ? Jean nous dit que si Jésus pose cette question à Philippe, c'est pour le mettre à l'épreuve. Alors, le mettre à l'épreuve, ça ne veut évidemment pas dire qu'il lui pose une question piège, qu'il essaye de le coincer et qu'il l'attend en tournant. Non, il invite Philippe, il nous invite, comme le peuple d'Israël mis à l'épreuve dans le désert, à traverser nos peurs, à traverser nos découragements, à nous laisser surprendre chaque jour par la manne qu'il nous donne, et surtout à apprendre à lui faire confiance envers et contre tout. Jésus veut réveiller notre foi, réveiller notre espérance, cette petite fille de rien du tout, comme l'écrit Charles Péguy. Et on dirait que cette petite fille de l'espérance se réveille dans le regard d'un autre disciple, André. Il a vu un enfant avec 5 pains et 2 poissons, un petit enfant de rien du tout, le dernier des derniers. Les enfants dans la société de l'époque n'avaient presque aucune valeur, c'était vraiment les plus petits, les plus misérables. Et Jean nous précise que cet enfant a 5 pains d'orge et littéralement une bouillie de petits poissons, c'est-à-dire exactement le repas du pauvre à l'époque. Ce petit enfant de rien du tout, c'est pourtant le signe discret, le signe presque invisible que le découragement peut être dépassé. Bernanos écrit que les pauvres ont le secret de l'espérance. Et je repense à notre sœur Martine qui a rejoint le Seigneur cet été et qui était vraiment un témoignage vivant de ça dans sa vie très difficile. Elle avait ce secret de l'espérance par sa grande franchise et sa force de s'accrocher malgré tout. Peut-être quand toi aussi la petite fille de l'espérance se réveille, quand tu te laisses toucher par d'autres personnes qui se donnent dans leur vulnérabilité, mais face aux immenses défis du monde, tu te dis sûrement aussi souvent comme André, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens, si petits, si fragiles, si dérisoires. C'est pourtant là que Jésus nous rejoint. Jésus nous invite à oser lui faire confiance et à passer nous aussi sur l'autre rive, sur la rive de l'espérance. En nous asseyant sur l'herbe, comme la foule, viens t'asseoir avec tes 5 pains et tes 2 poissons, ton sourire qui a réchauffé le cœur d'une personne triste, le temps passé à travailler dans ton jardin ou avec d'autres personnes qui ont faim de dignité et à recommencer encore et encore, malgré les tempêtes, les doutes, les égarements, ce câlin et ces larmes d'impuissance que tu as partagées avec ton ami. Même si ça paraît si pauvre, tout est là. Les autres évangélistes vont situer ce passage dans un lieu désert, mais Jean, lui, nous dit que l'herbe est abondante. C'est quand tu apportes le peu que tu as que Jésus peut faire refleurir la vie et transformer l'herbe sèche en herbe verte de l'espérance. Sur cette herbe fraîche, douce, vivante, Jésus nous invite à un avant-goût de son royaume, un royaume qu'il construit avec les petits riens de nos vies, un royaume placé sous le signe de la gratitude et du partage. Jésus prend nos pains et nos poissons et il rend grâce pour eux. Chez les autres évangélistes, encore, ce sont les disciples qui vont distribuer les poissons et les pains aux gens, alors que chez Jean, c'est Jésus lui-même. Seul Jésus peut nous donner la vie. Seul Jésus peut rassasier notre faim profonde. Seul Jésus peut renouveler nos forces et raviver en nous ce regard qui espère. Mais il a choisi pour cela d'avoir besoin du petit rien que nous sommes, du petit rien que nous avons à offrir. Ce pique-nique, c'est un peu ce que nous vivons chaque dimanche au culte. Chacun vient tel qu'il est, avec ses joies, ses peines de la semaine, sa participation, parfois son travail de préparation. Et Jésus va utiliser toute cette pâte humaine pour laisser sa grâce abonder bien au-delà de ce que chacun à apporter. Quand je sors du culte le dimanche, j'ai souvent cette impression d'avoir goûté à une abondance de prières, de chants, de paroles, de regards, d'échanges, d'encouragements qui m'ont nourri en profondeur. Et je crois que c'est ce que nous avons vécu aussi quand on s'est retrouvés pour prier à la veille des élections anticipées en ce début d'été mouvementé. Les quatre évangélistes nous racontent qu'après que chacun a été rassasié, il est encore resté 12 paniers. Alors ce chiffre n'est bien sûr pas un hasard. Le 12 représente le peuple de Dieu et son unité retrouvée. Le miracle réalisé par Jésus est avant tout un miracle de communion. Et on le voit aussi dans nos églises, ce miracle de l'amour de Jésus qui nous réunit bien au-delà de nos faiblesses et de nos différences. Chez Jean, Jésus va demander aux disciples de ramasser les restes pour que rien ne se perde. Alors on pourrait saluer de façon un peu anachronique en Jésus anti-gaspi, mais c'est bien sûr plus profond encore. La manne dans le désert se perdait et pourrissait si elle n'était pas consommée tout de suite. Mais le pain d'amour de Jésus est un pain qui dure, un pain dont le goût puissant est sans fin, un pain qui n'est jamais perdu. Alors comme André et Philippe, nous sommes nous aussi souvent pollués par ces voix qui crient en nous que c'est perdu d'avance. Mais si tu prêtes l'oreille, tu entendras derrière elle la voix discrète d'un petit enfant, de rien du tout. La douce voix de Jésus sur la montagne qui te murmure que rien n'est jamais perdu. Le pique-nique a bien sûr une fin, c'est pas tous les jours dimanche. Après le culte, chacun repartira chez lui, exactement comme la foule de cette histoire, et retrouvera aussi les combats de son quotidien. Mais cette foule, qui venait voir un guérisseur qui avait fait des signes, a changé de regard. Elle a découvert qui est Jésus, le prophète qui vient dans le monde. Dieu venu habiter parmi nous et qui peut continuer à nous habiter chaque seconde avec sa petite voix d'espérance qui nous nourrit en profondeur. Pas comme un grand roi magicien qui nous promettrait la prospérité ou la croissance illimitée, mais comme un roi dont toute la grandeur est d'être un petit enfant de rien du tout. Un roi couronné d'épines, crucifié pour nous, par nous, et qui choisit pourtant de nous donner sa vie jusqu'au bout. Un roi qui sait trop bien que nous rêvons si souvent de nous emparer de lui et de l'enfermer dans notre vision si limitée. Un roi qui se retire à la montagne, dans le silence et la présence de Dieu parce que c'est la prière, le silence et la longue patience qui alimentent notre espérance. Je vous propose de le rejoindre maintenant sur la pointe des pieds par notre prière. Oui, Seigneur, nous venons nous asseoir près de toi, sur la montagne, tel que nous sommes, comme ce petit enfant, avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Nous te confions nos peurs et nos découragements face aux souffrances et aux défis de notre monde et de nos vies. Merci parce que pour nous rejoindre, tu t'es fait petit enfant de rien du tout et t'as choisi de nous donner ta vie jusqu'au bout. Merci parce que tu peux nous nourrir chaque jour et réveiller en nous ce goût puissant de l'espérance. Et merci parce que pour toi, avec toi, rien n'est jamais perdu. Amen.